Le journal Marion Lourd, bonsoir.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette demi-heure d'information du dimanche soir, l'actualité de la semaine à venir et d'abord celle d'aujourd'hui. On vient de l'apprendre, Bernard Debré est mort à 75 ans, portrait de l'ex-ministre et député dans ce journal. L'épidémie de Covid gagne du terrain en France, nouveau foyer dans une maison de retraite de l'Aveyron. Des médecins appellent aujourd'hui les Français à éviter les rencontres familiales ou entre amis, elles sont déjà interdites. À Birmingham, nous serons au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni et l'Europe à couteau tiré sur le Brexit. Londres accuse les 27 de menacer la paix en Irlande. Bruxelles dément. Dans le journal aussi, l'été indien qui s'invite en septembre avec ses guêpes trop nombreuses qui vous embêtent. La page sport, PSG, OM, le classico, tête d'affiche de la Ligue 1 de football. Ce soir, ambiance déjà très tendue, vous l'entendrez. Comme un air de déjà-vu sur le Tour de France, doublé slovène, Tadej Pogacar remporte la 15e étape en haut du Grand Colombier. Primoz Roglic garde son maillot jaune. Et un grand format sport dans les coulisses du centre de formation auto au Mans, fabrique de champions façon Pierre Gasly, victorieux le week-end dernier au Grand Prix d'Italie. Votre chronique, c'est mon actu, rencontre avec un musicien qui tape sur des melons et des pastèques pour défier le coronavirus, préparez-vous à danser. Après ça, les questions des petits qui intéressent aussi les grands, ce sont les petits bateaux et aujourd'hui, Lucien, 6 ans.
Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait des roses du temps des dinosaures ? Au revoir.
Les roses sont comme nous, elles ont chaud, les températures grimpent encore demain. Point complet sur la météo à la fin de cette session d'information.
France Inter.
Comment endiguer l'épidémie de coronavirus ? Cette question récurrente encore à la une de l'actualité ce soir. Les Bouches-du-Rhône, Bordeaux, la Guadeloupe devraient annoncer demain de nouvelles restrictions. Déjà, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, propose un couvre-feu, 20h pour les plages et les parcs, interdiction des mariages à Marseille et sa région. Il faut dire que le virus a contaminé plus de 10 000 personnes en 24 heures. À Sévrac, dans l'Aveyron, les pattes gloriandes comptent depuis aujourd'hui 5 morts parmi ses résidents. 4 sont encore hospitalisés. Des pensionnaires et soignants contaminés. Le maire de Sévrac, Edmond Gros, lance un appel. Il nous faut plus de soignants.
On a eu besoin de bénévoles pour essayer de porter les plateaux repas du rez-de-chaussée jusque dans les étages pour que les soignants perdent moins de temps pour donner à manger aux patients parce que les trois quarts des gens ne mangent plus tout seuls. Ça reste encore un peu tendu. C'est pour ça qu'en plus des bénévoles qui viennent de la commune, on aurait surtout besoin de soignants, en particulier des soignantes et d'infirmières qui se manifestent quoi, dans les communes autour et puis même de plus loin. Quoi. S'il y a des gens qui veulent venir de Montpellier ou d'ailleurs, on peut les loger. Parce que le problème, c'est que les équipes, c'est que les employés ils viennent de passer une semaine atroce et là, ils commencent à être un peu... Enfin, ils sont plus qu'épuisés. Quoi. Il va bien falloir les remplacer, leur faire prendre quelques jours de repos. Sinon, avec le nombre de décès qui s'annonce, ça va être dramatique. C'est déjà dramatique et ça va être cauchemardesque.
Le maire de Sévrac, joint par Julien Balidas de France Bleu Occitanie, et pour mettre fin au cauchemar, des médecins signent aujourd'hui une tribune dans le journal du dimanche. Ils appellent à cesser les réunions amicales et familiales. Il reste peu de temps, écrivent ces soignants, sans pour autant demander l'interdiction de ces rassemblements. Mesure pourtant annoncée ailleurs, par exemple à Birmingham, au Royaume-Uni. L'interdiction rentre en vigueur mardi. Quelle réaction là-bas ? Réponse avec notre correspondante sur place, Laura Calmus.
Difficile à contrôler, difficile à respecter. Voici les premières réactions des habitants de Birmingham. Car dès mardi, la deuxième ville d'Angleterre et ses environs, soit un peu plus d'1,5 million d'habitants, n'auront plus le droit de se mélanger avec d'autres foyers, que ce soit à l'intérieur ou dans des jardins privés. Autrement dit, plus question donc d'inviter ou de se faire inviter par qui que ce soit. Beaucoup prennent la nouvelle avec réserve, mais les autorités ont été claires. La police pourra faire des visites à la maison et verbaliser en cas de non-respect. Birmingham est la ville d'Angleterre avec le taux de contamination le plus élevé. En quelques jours, il est passé de 30 à 90 pour 100 000 habitants. Dès demain et à travers le pays, les rassemblements de plus de 6 personnes à la maison ou dans les pubs seront également interdits. Et ce sera très certainement le cas jusqu'à Noël. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Au chapitre des restrictions, éviter à tout prix un nouveau confinement. C'est le message sur France Inter ce matin du patron des patrons. Geoffroy Roux-de-Bézieux estime que cela mènerait à l'effondrement de l'économie. En attendant, les autorités locales ne savent apparemment plus sur quel pied danser à Basse-Goulaine, près de Nantes. 174 personnes verbalisées, mais aucun fêtard évacué de la rave party interdite pour cause de Covid. L'agence régionale appelle toutefois les participants à se faire dépister. Et dans ce contexte épidémique, une compagnie aérienne française entre en zone de turbulence. Petite phrase, cet après-midi, du ministre des Finances néerlandais, la survie d'Air France KLM n'est pas automatique. Il appelle à réduire les coûts dans l'entreprise récemment mise sous perfusion d'argent public. Air France KLM a perdu 2,6 milliards au deuxième trimestre à cause du coronavirus. Des milliers de suppressions d'emplois sont déjà prévues. Cette information qui nous est parvenue peu avant ce journal, la France perd un grand médecin, mais également un vrai politique. Bonsoir Karine Becker.
Bonsoir.
L'ex-ministre et député Bernard Debray vient de s'éteindre à l'âge de 75 ans.
Oui, et Bernard Debray va laisser le souvenir d'un trublion, surtout d'un provocateur dans la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale. Il savait parfaitement faire le buzz. La forme était souvent un peu excessive avec Bernard Debray, un peu brutale, mais sur le fond, l'ancien député avait souvent raison. Alors il est probablement le moins connu de cette famille politique au nom si illustre, son père, Michel Debray, le premier ministre du général de Gaulle, celui à qui l'on doit notre constitution de la Ve République, ce père à côté duquel Bernard Debray assiégeait dans l'hémicycle lors de sa première élection en 1986. Il est aussi le frère jumeau même de Jean-Louis Debray, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien président également et plus récemment du Conseil constitutionnel. Évidemment, tout le monde le sait, un chiracien, la raison sans doute pour laquelle Bernard Debray avait choisi, lui, son rival, Édouard Balladur, lors de la présidentielle fratricide de 1995. Mais l'ex-maire d'Amboise était aussi et surtout, vous l'avez rappelé, un médecin. Comme son grand-père l'avait été avant lui, Robert Debray, Bernard était un urologue réputé, suffisamment pour avoir opéré l'ancien président François Mitterrand, dont il a aussi été le ministre de la coopération durant la seconde cohabitation.
Bernard Debray, médecin et politique, son portrait sur franceinter.fr. Les acteurs de l'économie la défendent. 70 élus s'en inquiètent. La 5G fait l'objet d'une tribune dans le journal du dimanche aujourd'hui. Les élus de gauche et écologistes s'inquiètent des conséquences du déploiement de cette technologie pour l'environnement et la santé. Les signataires réclament un débat sur le sujet. Position sectaire, juge le ministre délégué au commerce, Franck Riester. Et le réchauffement climatique est-il en cause? En tout cas, nous venons de vivre un dimanche aux couleurs de l'été indien. 23 à 35 degrés du nord au sud. Encore plus chaud demain. C'est souvent agréable pour ceux qui en profitent pour se mettre au vert, parfois inquiétant pour les agriculteurs notamment, et ça a des conséquences inattendues. Vous avez sans doute remarqué récemment, les guêpes sont à nos trousses, 5 fois plus nombreuses que l'an dernier à venir nous importuner, la faute donc à la météo, Sébastien Sabiron.
2 fois plus de nids à détruire cette année que les précédentes. Sandrine Fernandez dirige l'entreprise Hygiène 4D près de Paris, confrontée à des guêpes plutôt téméraires cette saison.
En plein Paris, dans des volets roulants.
Ça leur est visiblement égal qu'il y ait du mouvement, de la vie. Elles vont pas se cacher, quoi.
Et ce n'est pas un hasard. Les espèces urbaines et périurbaines sont celles qui ont le plus profité d'une météo particulièrement clémente cette année. Quentin Rome, expert en hyménoptères au Muséum National d'Histoire Naturelle.
On a eu un hiver doux et sans réchauffement important. On a ensuite eu un printemps très régulier sans refroidissement important. On sait que ça augmente la survie des rennes, donc la survie des colonies, et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de colonies cette année.
Un climat qui convient aussi aux frelons asiatiques, dont Éric Darrouzet est l'un des spécialistes à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte de l'Université de Tours.
Par exemple, en Suisse, on voit de plus en plus de frelons que les années précédentes. Donc l'animal colonise de plus en plus de territoires. On a une augmentation exponentielle. Jusqu'à un certain moment où on arrive à peu près à un plateau.
Des bestioles qui devraient se faire un peu plus discrètes courant octobre. Les larves seront moins nombreuses. Plus besoin pour les guêpes adultes de trouver de la viande sur nos tables pour les nourrir. Elles se contenteront de sucre plus facile à trouver dans la nature.
La chaleur qui va durer encore un peu, point complet sur la météo à la fin de ce journal. L'actualité à l'étranger ce soir, ce sont ces 250 opposants biélorusses arrêtés après de nouvelles manifestations contre le régime à Minsk. Des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau défilé pour dénoncer le pouvoir d'Alexandre Loukachenko qui doit rencontrer le président russe demain. La Grèce et la Turquie en voie de réconciliation, peut-être en Méditerranée. Ankara et Athènes se disputent autour d'un gisement gazier, mais le navire turc déployé sur la zone vient de regagner la côte. Là, le conflit se cantonne aux mots, mais ça ne s'apaise pas du tout. Nouvelle joute verbale ce week-end entre Londres et les 27 sur fond de négociations Brexit. Le Premier ministre britannique accuse l'Union européenne de faire planer la menace d'un blocus alimentaire sur l'Irlande du Nord. Ça mettrait la paix en danger. Colère de Bruxelles. Récit de cette nouvelle passe d'armes avec vous, Pierre Benazet.
Boris Johnson ment aux Britanniques et à la Chambre des communes quand il leur dit que l'Union européenne veut instaurer un blocus alimentaire. Voilà la position des 27 telle qu'elle a été résumée par deux ministres irlandais. Pour la ministre de la Justice, toute insinuation laissant croire qu'une frontière sera créée est tout simplement fausse. Et pour le ministre des Affaires étrangères, l'attitude du gouvernement porte atteinte à la réputation du Royaume-Uni en tant que partenaire de confiance. Sur le continent, l'attitude est la même et après un entretien avec le président irlandais, Charles Michel affirme que la crédibilité du Royaume-Uni est en jeu. Le président du Conseil européen partage en cela la position de John Major et Tony Blair, mais des critiques du même tonneau avaient été balayées d'un revers de manche par le gouvernement britannique la semaine dernière. L'Union européenne donne jusqu'à la fin du mois au Royaume-Uni pour retirer sa révision du protocole sur l'Irlande du Nord, faute de quoi il pourrait déclencher la procédure d'arbitrage prévue par l'accord, voire imposer des astreintes financières. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Et pour adoucir les mœurs, quelques notes de musique pour clore ce journal. Le chanteur malien Afel Boukoum sort un nouveau disque, le premier depuis 10 ans. Alors si ce nom ne vous dit rien, sachez que le disque intitulé Lindé est produit par la star de la pop anglaise Damon Albarn. Mathieu Culeron.
Afel Boukoum se définit comme un artiste en exil. Dans ce nouveau disque, il évoque la situation dans son pays, le Mali, une situation d'insécurité qui l'a obligé à quitter la région de Niafunké, dans le nord près de Tombouctou, pour se retrouver dans la capitale. Dans ce titre, Afel parle de façon limpide. Il dit « Le Mali, notre pays, est laïque. C'est un pays d'amour et de fraternité. » Dans ce disque, Boukoum appelle à l'unité et à la paix pour le Mali. Produit par l'ex-Blur Damon Albarn, qui considère la voix du chanteur malien comme un trésor national, on trouve ce titre d'Akamana qui évoque l'épuisement d'un peuple et l'absence d'espoir. Pour cet album, le chanteur malien s'est entouré d'une équipe de rêve, le regretté Tony Allen à la batterie, Sidiki Diabaté à la cora, Vin Gordon des Scatolites au trombone ou encore Johannes Policewoman au violon. Lindé signe le grand retour d'Afel Boukoum, un album scintillant, beau et réaliste, mais aussi plein d'espoir, qui deviendra un grand classique de la musique malienne.
Et on rentre en musique dans la page sport. Bonsoir Emma Sarango.
Bonsoir.
À une semaine de l'arrivée sur les Champs-Élysées, le Tour de France est-il déjà plié?
C'est le Slovène Tadej Pogacar qui s'impose au sprint au sommet du Grand Colombier dans le Jura pour la 15e étape et son compatriote, le maillot jaune Primoz Roglic, deuxième de l'étape, s'installe un peu plus en tête du classement général. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Emma.
Au Grand Colombier pour France Inter, cette 15e étape confirme ce que l'on avait déjà observé toute cette semaine, à savoir la mainmise slovène sur ce Tour de France.
Oui, avec l'une des images de ce tour, quatre coureurs en jaune et noir de la Jumbo-Visma qui roule à un rythme d'enfer en tête du peloton pour emmener sur un boulevard vers Paris le Slovène Primoz Roglic. Incroyable performance qui nous rappelle les plus grandes heures de la Sky racontées de l'intérieur par Roglic en personne.
Vous savez, j'ai même pas besoin de leur dire d'imprimer un train d'enfer. Ils vont très vite, c'est dans leur nature. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été vraiment le rouleau compresseur. Chacun a fait son boulot à la perfection. Jusqu'au bout. Et donc je suis très heureux.
Roglic au micro de nos confrères de France Télévisions qui, à la veille de la journée de repos, est bien à 40 secondes d'avance au général sur son compatriote Pogacar et désormais 1 minute 34 sur le Colombien Rigoberto Urán, nouveau troisième Emma.
Nouveau troisième car à l'inverse Fanny, il y a ceux qui ont beaucoup perdu cet après-midi et notamment le tenant du titre.
Egan Bernal, méconnaissable, on l'attendait sur des pentes qui semblaient pouvoir mieux lui convenir, mais mal toute la journée, il a fini par craquer face au rythme imprimé par les Jumbo. Le tour est fini pour le leader des Ineos, qui lâche ce soir plus de 7 minutes. Mauvaise opération également pour Nairo Quintana, après de 4 minutes, malgré l'aide précieuse de son coéquipier Warren Barguil. Et puis la déveine qui continue pour les Français, avec Guillaume Martin, victime d'un ennui mécanique au plus mauvais moment.
J'aurais préféré qu'elle se passe autrement. Je pense que la physionomie de la course aurait été totalement différente si je n'avais pas eu un... si mon derrière n'avait pas cassé le pied de la montée. Ça m'a obligé à changer de vélo J'ai perdu pas mal de temps dans l'affaire et on se retrouve tout seul. On perd à nouveau beaucoup de temps. Donc voilà, il y a de la frustration par rapport à ça ce soir.
Le leader de la Cofidis, hein, toujours premier français au général, 11e, à plus de 6 minutes Emma.
Mais il y a quand même un français encore dans le match, Fanny.
Oui, alors pas pour le général, mais un grand coup de chapeau encore une fois au grimpeur de la BNB Vital Concept, Pierre Roland, à l'attaque toute la journée avant d'être repris dans les premiers kilomètres du Grand Colombier.
C'est le tour, on se doit de tout donner jusqu'à la ligne. J'aurais bien aimé arriver au pied avec 4-5 minutes et vraiment me livrer un vrai combat. Là, c'était pour l'honneur, mais c'est le tour. On se doit d'aller jusqu'au bout tant qu'on n'est pas repris, quoi.
Pierre Roland, hein, qui aurait sans doute mérité mieux tant il montre une belle image du cyclisme offensif que l'on aime, Emma.
Et une étape aussi, Fanny, qui a tranché avec les foules aperçues hier. Aujourd'hui, il y avait presque personne dans les montées.
Ah oui, après l'image du jour, c'est le son du jour. Vous n'entendez rien? C'est normal. Mesures sanitaires obligent. L'école de la Biche et du Grand Colombier était interdite au public. Quelques spectateurs se sont cachés dans les bois pour voir passer le peloton. Mais les coureurs ont malheureusement souffert en silence. Et c'est triste. Un coureur qui se bat sans le soutien du public. Ce sera malheureusement l'une des images de ce Tour de France aussi.
Et demain lundi sera donc une journée de repos avant les 6 dernières étapes du Tour de France.
Et si l'issue du Tour semble déjà se profiler, rien n'est joué. En revanche, rien n'est plié pour le Classico Football.
Paris face à Marseille ce soir pour la troisième journée de Ligue 1. Avant de partir au Parc des Princes, quelques résultats. Lens confirme ses ambitions en s'imposant à Lorient 3-2. Rennes gagne à Nîmes 4-2 et Lille bat Metz 1-0. Et nous sommes donc maintenant à moins de 2 heures du coup d'envoi de l'affiche de cette journée. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Emma.
Vous êtes en direct du Parc des Princes pour France Inter. Et entre les deux clubs, ça fait déjà 48 heures que la tension monte progressivement.
Oui, avec plusieurs banderoles injurieuses envers l'OM accrochées autour du Parc des Princes et dans Paris ces dernières heures, notamment à l'adresse d'un certain Dimitri Payet. Souvenez-vous, le 23 août, le soir de la finale de Ligue des Champions perdue par le PSG face au Bayern de Munich à Lisbonne, la star de l'OM poste un tweet moqueur rappelant que Marseille reste le premier et seul club à l'heure actuelle à avoir gagné à ce jour la grande coupe d'Europe de foot. Alors, avant-hier, son entraîneur à l'OM a pris sa défense en disant que pour lui, il vaut mieux être réaliste qu'hypocrite. Voilà la citation d'André Villas-Boas. Et puis réponse de l'entraîneur du PSG hier en conférence de presse. Quand on célèbre la défaite des autres, c'est qu'on n'a pas grand-chose à célébrer chez soi, a lâché Thomas Tuchel avant peut-être un exploit marseillais tout à l'heure.
Et c'est d'autant plus tendu que cette fois, effectivement, les Marseillais y croient, Alexandre.
Oui, le champion parisien privé de ses 7 meilleurs joueurs jeudi lors de sa rentrée et cette défaite à Lens à 1-0. Des joueurs touchés par le Covid, les Parisiens qui retrouvent Neymar et Di Maria titulaires tout à l'heure, mais avec un seul entraînement collectif dans les jambes. Navas et Paredes seront eux remplaçants. 10 ans que l'OM effectivement n'a pas gagné ici à Paris, mais on ne sait pas dans quel état de forme seront ces joueurs. Il manquera aussi encore Mbappé, Marquinhos ou encore Icardi. Et puis ce stade sera quasiment vide, Emma. 5000 personnes autorisées tout à l'heure. Pas d'ultra et quelques banderoles, là encore, un 98e classique qui sera vraiment particulier ce soir.
PSG OM, coup d'envoi donc tout à l'heure à 21h.
Un tout nouveau nom apparaîtra ce soir au palmarès des tournois du Grand Chelem.
Dominic Thiem, Alexander Zverev, l'Autrichien et l'Allemand s'affrontent ce soir en finale de l'US Open de tennis. Une finale à huis clos pour clore une quinzaine sous bulle sanitaire. Tous deux ont l'occasion de s'adjuger leur premier titre majeur grâce à l'absence de Roger Federer, de Rafael Nadal et après l'inimaginable disqualification de Novak Djokovic. Et puis ce sont les deux vedettes françaises de cette rentrée en sport automobile, en MotoGP. D'abord, Fabio Quartararo perd la tête du classement général. Il a chuté au Grand Prix de San Marin. En Formule 1, Pierre Gasly abandonne lui aussi au Grand Prix Toscane après un accrochage dès le premier tour. Une semaine après sa victoire surprise à Monza. Et sans surprise, c'est Lewis Hamilton, le Britannique, qui s'impose désormais à une victoire du record de Schumacher.
Et vous l'avez dit Emma, Pierre Gasly a dû abandonner cette fois, mais ça ne l'empêche pas d'être le Français qui enfin gagne en Formule 1 depuis sa victoire surprise en Italie le week-end dernier. Ce pilote gagnant, on l'attendait depuis Olivier Panis il y a presque 25 ans. Où la France fabrique-t-elle ses futurs as de la route? C'est le grand format sport aujourd'hui. Alexandre Berthaud vous emmène dans les coulisses de la filière d'excellence, le centre de formation du Mans.
Ils ont à peine de la moustache, l'âge de passer le code et pourtant ces 15 adolescents s'apprêtent à monter au volant de bolide. Des Formule 4, pointe de vitesse de 120 km/h, nous sommes sur le circuit de Magny-Cours, dans la Nièvre. Et de quoi rêvent-ils ces ados pilotes?
C'est, je pense, un peu comme tout le monde, aller en F1.
D'un parcours à la Gasly, évidemment. Le Français vainqueur du Grand Prix d'Italie la semaine dernière a débuté dans ses Formule 4, c'était en 2011. Jean-Christophe Lollier est le directeur technique national de la Fédération française des sports auto.
Les premiers de ce championnat seront pour certains accompagnés par la Fédération pour les championnats suivants. Et puis après, ils gravitent vers la F3 FIA et la F2. Et puis, comme Pierre Gasly, quand ils ont du talent et que l'opportunité se présente d'atteindre le Graal, quoi, la Formule 1.
Des championnats de Formule 4, il y en a dans d'autres pays. La formation à la française, elle se démarque par son académie, un programme sport-études basé au Mans. Les meilleurs pilotes y sont formés, comme Victor Martins. Aujourd'hui, il court à l'échelon supérieur en Eurocup Renault et il reconnaît l'importance de son passage à l'académie.
Ça m'a permis aussi d'avoir un environnement vraiment professionnel, m'améliorer au niveau du pilotage. Ça me permettait d'allier aussi le championnat avec l'école, travailler pour la première fois avec des ingénieurs qui sont là pour toi, pour le pilote, pour te développer. Donc non, ça m'a beaucoup permis de me développer et surtout connaître ce qui m'attendait sur les prochaines années.
Mais pour tutoyer les sommets, gravir les échelons, la particularité du sport automobile, c'est qu'il faut énormément d'argent. Rien que le championnat de Formule 4 coûte 110 000 euros l'année au pilote, deux fois moins cher cependant qu'à l'étranger grâce aux aides de la fédération. À l'école, on apprend donc aux jeunes à aller récolter de l'argent. Amaury Richard est responsable sportif de la Formule 4.
C'est assez compliqué pour un jeune de 14 ans d'aller démarcher et retrouver des montants qui dépassent les 100 000 euros. Mais voilà, nous, on les aide, on donne des conseils, on leur dit qu'il faut les fidéliser assez tôt. Les pousse à aller démarcher et aller un peu innover, on va dire.
Et puis l'excellence auto à la française, c'est aussi des mécaniciens formés spécifiquement au même endroit que les pilotes, comme Camille Guizy.
On est la seule école à posséder notre championnat de France. On a de très bonnes conditions de travail. On a vraiment la possibilité de se préparer à la réalité du monde du sport auto.
À la sortie, tous ou presque sont embauchés dans le sport automobile. Plusieurs travaillent aujourd'hui dans des écuries de Formule 1.
Fin en trombe de cette page sport. Merci Emma Sarango.
Inter.
Et à 19h21, c'est le moment d'ouvrir notre agenda. Quelle actualité pour les jours à venir? On attend évidemment de connaître les nouvelles restrictions liées à la Covid-19. On apprend ce soir les nouveaux chiffres du gouvernement. 7183 cas de plus en 24 heures, près de 31 000 morts depuis le début de l'épidémie. Le procès des attentats de Charlie Hebdo sur France Inter se poursuit, à suivre tous les jours évidemment à la radio avec nos envoyés spéciaux. Demain, lundi, le Premier ministre reprend du service. Tout feu, tout flamme en visite chez le fabricant de briquets, stylos et rasoirs Bic en Seine-et-Marne. Jean Castex a en effet été testé négatif au coronavirus ce week-end. Ce lundi également, au Japon, le Parti libéral-démocrate choisit son nouveau président, successeur annoncé du Premier ministre démissionnaire Shinzo Abe, élection sans suspense qui devrait acter la victoire de Yoshihide Suga, son portrait par Karine Nishimura.
On le surnomme Oncle Reiwa depuis que lui est revenu l'honneur d'annoncer l'an passé le nom de l'ère impériale Reiwa débutée avec le nouvel empereur Naruhito. Yoshihide Suga, bientôt 72 ans, secrétaire général et porte-parole du gouvernement Abe, n'est paradoxalement guère loquace. Peu charismatique, il n'était jusqu'à présent pas vraiment populaire. Mais si les chefs de faction du Parti libéral-démocrate l'ont choisi, c'est parce qu'il ne risque pas de faire un bilan critique du gouvernement Abe, vu qu'il en était la principale cheville ouvrière. Suga se vante de ne pas descendre d'une lignée de politiciens, ce qui le distingue de nombreux dirigeants nippons.
Je suis le fils aîné d'un cultivateur de la campagne enneigée d'Akita. On peut dire que je suis parti de zéro.
Téméraire, têtu, élu au Parlement depuis 1996, il s'est frayé peu à peu une place au sein du parti grâce à son côté tacticien et bosseur. Contrairement à Abe, il n'a cependant pas l'ambition de construire un grand Japon. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Yoshihide Suga, une fois élu, devra recevoir mercredi la validation du Parlement japonais. Jeudi, première journée de mobilisation sociale en France depuis la crise de la Covid. La CGT, FSU Solidaire et des syndicats étudiants appellent à cesser le travail pour des meilleurs salaires notamment, mouvement indispensable, même en pleine crise, juge le numéro 1 de la CGT.
C'est une
appelle à mobilisation de plusieurs syndicats dans l'ensemble des professions publiques, privées. Il n'y a pas qu'à la SNCF. Est-ce que les salariés d'Auchan, ils ne doivent rien faire alors qu'on annonce 1500 suppressions d'emplois et que leur patron est parmi les plus riches de France? On se laisse faire ou on essaie de se défendre?
Philippe Martinez avec Alexandra Ben Saïd sur France Inter. Vendredi, direction les États-Unis, coup d'envoi de l'élection présidentielle. Le vote anticipé démarre dans plusieurs États. Enfin samedi, chez nous, journée du patrimoine particulière dans le contexte de l'épidémie. L'Élysée, par exemple, ouvrira ses portes comme tous les ans, mais avec réservation en ligne et nombre de visiteurs réduits. Évidemment, venez masqués. À 19h25 sur France Inter, votre chronique « C'est mon actu ». L'actualité de l'un d'entre vous qui passerait presque inaperçu si Sandrine Houdin ne l'avait pas repéré. Cette semaine, Sandrine tend son micro à Marc Mézergue, jeune pianiste, 27 ans, enfant du conservatoire de Bordeaux, touché comme tous les musiciens par la crise du coronavirus, concert annulé, concert reporté. Sa solution pour ne pas faire le deuil de son métier, remplacer la scène par des concerts sur internet et lancer ces jours-ci un genre musical pour le moins particulier. Marc Mézergue pianote sur des fruits et légumes. Son premier single s'appelle Watermelon. Rencontre avec ce musicien vitaminé dans son studio de Seine-Saint-Denis.
Toutes les pastèques et tous les melons, ils sont connectés à des fils. Et en fait, en branchant avec tous les fils à chaque truc, ça permet que chaque tranche de melon et de pastèque devienne une note. Il y a des pastèques pour faire les notes blanches, des melons pour faire les notes noires, comme si c'était des notes de piano, comme un clavier, quoi. Et en fait, tu te retrouves à jouer du piano, mais avec des pastèques et melons, quoi.
C'est juste melon, pastèque, etc. Ça peut être banane, ça peut être...
Ça peut être banane, ça peut être saucisse. À la base, on devait faire avec des saucisses merguez, vu que je m'appelle Mézergue. Tu peux le faire avec plein d'autres trucs, ouais.
N'importe quoi.
Tout ce qui est conducteur en électricité, quoi. Je suis pas physicien, mais avec de l'eau, avec... ouais, faut regarder ce qui est conducteur en électricité, ça marche.
Et ça me fait marrer.
Ça me fait marrer, ouais. Tu bouffes ton piano à la fin. C'est rigolo. Petite démonstration. C'est un déconneur, mais après ça veut pas dire que c'est pas sérieux, quoi. Enfin, quand c'est ton business, c'est pas que pour déconner. Par exemple, moi, j'avais entre 100 et 150 dates de programmer. Bon, tout a été supprimé avec le Covid. Donc, qu'est-ce qui te reste? La vidéo, les réseaux, et puis là, bah, faut essayer de se renouveler là-dessus, quoi.
C'est-à-dire.
Au mois de mars, tout le monde attendait la rentrée, comme la reprise, quoi. Maintenant que c'est la rentrée, enfin, je pense qu'il faut arrêter de... On peut plus se permettre d'espérer, quoi. Ça fait 6 mois qu'on espère que ça reprenne. Si, il faut espérer, hein. Mais il faut pouvoir travailler de façon Covid et pas attendre de faire les choses qui étaient possibles avant, en fait. Quand tu vois les concerts, tout s'annule, là. Faut pas faire deux fois la même erreur, en fait. Faut pas se dire, bon, mais on redécale tout au printemps. Non, c'est sûr que ça va être la merde encore pendant encore... j'en sais rien, en fait, on sait pas. C'est un virus, hein, c'est pas... Voilà. La scène aujourd'hui, elle va sur le chemin de la clandestinité, quoi. La clandestinité pour l'aspect vrai de la chose, en tout cas, live, soit par les réseaux ou voilà, tu peux proposer du contenu, mais c'est pas du live, c'est de la vidéo, quoi.
C'est ce que vous avez choisi, moi.
En tant qu'artiste, oui, si tu veux essayer de rester présent et que le live te le permet pas.
Et Watermelon, alors, sur les réseaux, ça marche ou pas?
Bah ouais, ça cartonne bien, ouais, c'est cool. Tu fais du piano avec des pastèques et du melon et des kiwis, oui, je pense que voilà, ça fait des millions de vues un peu partout, quoi.
Projet, avec quoi?
J'aimerais bien le faire avec des gens, en fait.
Tu veux dire que moi, tu me ranges?
Ouais, et tu deviens une note, quoi, tu vois.
Soleil, swimming. Quelques notes ensoleillées pour jeter un œil à la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
C'est avec vous Jean-Michel Golinski.
Un lundi très chaud en perspective avec des températures de 10 à 15 degrés supérieures au normal d'un mois de septembre. Avec des poches prévues à 38 sur la Nouvelle-Aquitaine, il fera 28 à 32 pour les valeurs entre guillemets les plus basses autour de la Méditerranée et 32 à 36 en général sur le reste du pays. Avec par exemple 32 à Lille, Nancy et Strasbourg, 34 à Rennes, Reims et Paris, 35 à 36 degrés en Rhône-Alpes, sur le bassin parisien, le centre Val-de-Loire et dans la vallée de la Garonne, avec toujours du plein soleil et une petite cumulification l'après-midi sur les Alpes. La nouveauté, c'est la levée du vent d'autan vers 70 km par heure, doublé d'un risque de grisaille sur les rivages du Roussillon. Mardi maintient des fortes chaleurs dans la moitié est du pays, mais plus à l'ouest, les températures vont légèrement baisser, en restant toutefois supérieures aux moyennes, sous un ciel de plus en plus laiteux par l'océan.